Bonjour à tous, bonjour. Je suis content de voir les chrétiens qui tenaient bien par le biais de l'Oasis et les autres. Ça me fait plaisir de vous rencontrer, de partager ce culte avec vous, de prier le Seigneur ensemble et de chanter avec sincérité. Merci Seigneur. Pour ce matin, j'ai pensé partager avec vous un sujet très spécifique, ce sera plutôt de l'enseignement. Ce sujet est le suivant, merci. Le diable et les démons. Alors, ça fait partie de la théologie systématique. C'est un point parmi d'autres. Alors, quand on parle de ce sujet, il peut y avoir plusieurs réactions. La première peut être l'incrédulité. Quoi ? Le diable, ça n'existe plus. C'est un personnage mythique, légendaire. Oh, avant, on parlait des possédés, mais vous savez, aujourd'hui, on sait bien que ce ne sont que des fous. Mais ce sont des raisons psychiatriques. Ou d'autres peuvent y croire, c'est vrai, mais quand même minimiser beaucoup la réalité de ce monde des ténèbres. Et bien des chrétiens parfois oublient ce combat, cette réalité, et qu'il y a effectivement un monde invisible. Nous sommes cartésiens, éduqués à l'école de la France, on nous a appris à la suite de Descartes, à être rationnel et à ne pas trop croire dans les histoires de grand-mère, excusez-moi pour les grand-mères qui sont présentes. Et au fond, on ne s'en rend pas compte, mais on est imprégné aussi de ce qu'on nous a appris depuis qu'on est tout gosse. Moi, personnellement, je suis d'arrière-plan athée. Je ne croyais ni en Dieu, ni au diable. Et parfois, en tant que chrétien, en France, on peut oublier ces réalités-là. On peut oublier qu'il y a un vrai combat, et on le verra dans un des points notamment, il est le tentateur, et il y a parfois des tentations diaboliques, pas seulement charnelles, qui viennent de nous, malheureusement, chacun est tenté quand il est amorcé par sa propre convoitise, dit Jacques, mais il y a aussi un tentateur, qui peut réunir des conditions, qui peut donner des rendez-vous, pour un frère avec une femme, par exemple, qui rôde autour, et le diable peut essayer de faire tomber. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc l'incrédulité, minimiser, ou alors on peut avoir une autre action, la peur. Même parfois chez les chrétiens. J'ai connu une chrétienne qui disait que quand on parlait de ça, même le soir même, elle avait du mal à s'endormir. La peur. On peut avoir peur de ces choses-là, et un peu pratiquer la politique de l'autruche, parce qu'on aurait des craintes à ce sujet. J'espère que je ne vous ferai pas peur ce matin. On peut aussi avoir une attirance malsaine pour ces choses-là. Dans le monde évangélique, il y a beaucoup de livres écrits sur le sujet, sur le combat spirituel. On peut avoir un intérêt, somme toute, déplacé. Une recherche du mystique, une recherche de puissance. Et là, c'est à l'opposé de l'incrédulité, mais ce n'est pas forcément mieux non plus de vouloir, dans ce sujet-là, vouloir vivre des choses particulières. Alors, le pourquoi de mon message? D'abord, peut-être, je l'espère, favoriser de la vigilance, être vigile. Ensuite, vous parlerez des mauvaises pratiques pour clarifier certaines choses à ce sujet-là. Il y en a beaucoup. Enfin, de favoriser une foi saine. Et qu'est-ce que c'est qu'une foi saine? Ce qui est sain, santé, S-A-I-N, c'est ce qui est favorable à la santé. Mais une foi en bonne santé, c'est une foi guidée par l'Écriture. Trop de fois dans nos milieux, nous croyons, mais est-ce que nous croyons vraiment selon ce que l'Écriture enseigne? Nous ne sommes pas appelés à croire n'importe quoi. Nous sommes appelés à croire que ce qui se vérifie par la parole de Dieu. Et notamment dans ce domaine-là, le domaine du diable, des démons, on peut dire beaucoup de choses, il y a beaucoup de témoignages qui sont donnés. Mais enfin, ce qui compte, c'est ce que dit l'Écriture. Parce qu'après, on peut partir dans toutes les directions. Alors, tout d'abord, en premier point, je dirais, le monde des ténèbres est une réalité. On va lire Apocalypse, chapitre 12 ensemble. Vous voyez bien, Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12. Alors, vous savez que l'Apocalypse, ça veut dire révélation. Ça ne veut pas dire que c'est prédiction, ça ne veut pas dire prédiction, ça veut dire révélation. Et dans la révélation, ben, nous est révélé l'envers du décor, l'histoire céleste de l'humanité quelque part. Il y a beaucoup de choses qu'on vit sur la terre, mais qui ont une origine céleste, invisible. Et l'Apocalypse nous le révèle, nous le dit. Alors on va lire tout le chapitre d'Apocalypse, chapitre 12. Si vous voulez bien, on va prendre le temps de bien lire ce passage. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme qui symbolise le peuple de Dieu de toutes les générations, de toutes les alliances, c'est pas mon propos ce matin, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, c'est notre Seigneur, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Donc voilà, c'est la croix, et c'est l'élévation de Jésus, Jésus qui est assis à la droite de son Père. Et là, il est dit, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses dragons combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. On ne se rend pas compte de cette victoire de la croix qui a chassé le diable du ciel. Gloire à Dieu. Dans ce passage, Jésus est crucifié, glorifié, et si Jésus monte, le diable descend. Il est jeté à terre. C'est la victoire de la croix. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité 2 fois sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » On voit bien ici, dans ce passage, que le diable a été vaincu à la croix. Il a peu de temps jusqu'à ce que Jésus revienne, parce que d'après la Bible, nous sommes dans les derniers temps depuis sa première venue, et il vient bientôt. Le peu de temps, c'est le temps entre sa première et sa seconde venue. Et pendant ce temps entre sa première et sa seconde venue, le diable, nous allons lire la suite du texte, va faire la guerre à l'Église. On continue. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie pour 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, c'est qui, c'est nous, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus, c'est bien les chrétiens. Et il se tint sur le sable de la mer. Amen. Et c'est la suite de l'Apocalypse qui va nous expliquer cette rage de l'adversaire qui va se décliner par la persécution, par toutes sortes de combats contre l'Église. Le diable existe bel et bien. C'est une personne, ce n'est pas une légende. Et il existe depuis fort longtemps. Dans ce texte de l'Apocalypse, il est appelé le serpent ancien. Pourquoi le serpent ancien ? Parce que dès les premières pages de la Bible, nous sommes en présence du diable. Dans Genèse 3, la chute, le diable, sous forme d'un serpent, insinue, propage le doute, il est déjà là. Il est déjà là pour faire chuter l'homme afin qu'il se révolte contre Dieu. C'est le serpent ancien. Et tout au long de la Bible, jusqu'au dernier livre que nous venons de lire dans l'Apocalypse, où il est là présenté sous différentes traits, notamment celui de cette figure mythique, le grand, un grand dragon, effroyable, énorme. Bon, toutes ces figures sont là pour nous dire que le diable est à la fois sinueux, silencieux, rusé, et en même temps effrayant, brutal, violent, puissant comme un dragon. Et il y a d'autres images dans la Bible pour nous évoquer un peu ce que peut être le diable. Nous, chrétiens, nous croyons en Dieu. Nous croyons que tout le monde visible a été fait par le monde invisible. Et nous savons aussi, alors nous ne croyons pas en eux, mais nous savons aussi que le diable et les démons existent et qu'il y a une puissante guerre actuellement. Nous ne sommes pas manichéens. Quelqu'un qui est manichéen va dire qu'il y a un équilibre entre le bien et le mal, que ça se vaut. Non, nous croyons que Dieu existe depuis toute éternité, pas le diable. Le mal n'existe pas depuis toujours. Le malin n'existe pas depuis toujours. Seul Dieu existe depuis toujours, parce qu'il est Dieu. Donc nous ne sommes pas manichéens, nous ne croyons pas que le mal est aussi fort que le bien. Non, nous croyons que le bien est plus fort et qu'il triomphera en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia.
Amen.
Il est écrit que bientôt, Dieu écrasera Satan sous nos pieds. Mais ce n'est pas encore le cas. J'anticipe un peu, il y a eu des mouvements de jeunesse où on chantait des chants sur « On piétine Satan » et les jeunes faisaient ça. J'apprécie pas ça. Parce que je crois que là, c'est un peu d'arrogance et d'insolence. Je crois qu'il faut être très prudent. C'est Jésus-Christ qui écrasera la tête du serpent. C'est la première prophétie de la Bible, Genèse 3:15. Tu lui blesseras le talon, mais tu lui écraseras la tête. Donc, c'est une prophétie qui s'applique en Jésus. Ce n'est pas de nous-mêmes que nous devons jouer à piétiner le diable. Il n'est pas encore piétiné. Il est vaincu, mais nous venons de le voir, il est très agissant. Il est vaincu et il sera piétiné quand Jésus reviendra. Alléluia. En attendant, il nous faut lutter. Il nous faut combattre. Ce que ce chapitre nous montre aussi, c'est que nous sommes en guerre. Je n'ai pas toujours l'impression qu'on le réalise. Vous connaissez cette période appelée la drôle de guerre. Ce n'est pas fameux dans notre histoire. Les Allemands, ils étaient au taquet. Ils avaient déjà l'armement depuis 10 ans. Ils avaient une industrie d'armement du tonnerre. Ils étaient armés jusqu'aux dents. Et nous, on se promenait. L'ami Maginot nous protégera. Ne vous inquiétez pas. Mais quand ils sont déboulés par les Ardennes, on n'a rien compris à Dunkerque. Ben, je viens de là-haut, donc je peux me permettre. Hein. Parce que n'y croyez pas vraiment. Nous sommes en guerre. Pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'agit pas contre nous. Il y a un vrai combat. Et nous devrions prendre au sérieux ce combat de la foi. Amen. Pour le prendre au sérieux. Dans la vie de Jésus, le diable a été particulièrement agissant dès sa naissance, par le biais d'Hérode. Les nourrissons ont été massacrés, puisque 2 ans, ça devait être effroyable, une prophétie de Jérémie l'annonçait. que là, toute cette région allait pleurer. Et puis, dès après son baptême, le tentateur vient. Hein, des fois, quand on vient de prendre son baptême, on a des grands combats. C'est pas étonnant. Parce que c'est un engagement devant Dieu très important. Et ça ne laisse pas indifférent l'ennemi de votre âme. Et puis tout au long de son ministère, dans l'opposition jusque la croix, jusque là, et même la résurrection, c'est encore le diable qui agit quand il influence les pharisiens pour qu'ils disent aux soldats qui gardaient le tombeau, vous direz que ses disciples sont en venus enlever le corps. Et encore aujourd'hui, plus que jamais. Alors, quelles sont les traits caractéristiques de ce monde des ténèbres? Je ne vais pas être exhaustif, mais quelques éléments. Tout d'abord, le doute. Le diable veut nous faire douter. Comme pour Adam et Ève, notamment, Dieu a-t-il réellement dit? Non seulement le doute sur ce que Dieu a dit, et aujourd'hui, plus que jamais avec la Bible, on a beau dire aujourd'hui, il est écrit, mais aujourd'hui on nous dit, oui, mais ça c'est quand vous l'interprétez, il y a d'autres interprétations, Dieu n'a pas vraiment dit, on ne s'en sort plus. Vous savez que le postmodernisme est une ère dans laquelle nous nous trouvons et qui se caractérise entre autres par le relativisme. Tout est relatif, rien n'est absolu. Et ça nous touche nous aussi, dans nos assemblées. L'écriture, oui, mais... Et non, ce qui est écrit, est écrit. Le doute, plus que sur ce que Dieu a dit, sur ce que Dieu est. Parce que quand le diable dit, non, mais c'est pas ça, c'est pas ça, moi je vais vous faire une étude biblique. Je vais vous expliquer ce que Dieu a dit. En fait, il sait que le jour où vous mangerez de ça, vous allez devenir aussi fort que lui. Vous savez comment il est Dieu? Il n'aime pas partager son autorité. C'est un Dieu, c'est un despote, c'est un dictateur. Il veut garder le contrôle sur vous. Il veut vous maintenir dans l'infériorité. Il sait que le jour où vous allez manger de ça, vous allez être son égal. Et Dieu ne supporte pas qu'on soit son égal. Vous voyez un peu comment le diable a montré Dieu. C'est tout le contraire. Jamais Dieu, quand il nous interdit quelque chose, c'est pour nous tenir dans l'infériorité, mais jamais. C'est pour nous sauver, nous secourir, parce qu'il sait que ça va nous faire du mal. Mais le diable a sous-entendu que Dieu était mauvais. Ça va jusque-là. Or, Jésus a dit le contraire, un seul est bon. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est bon? Ça ne veut pas dire qu'il est gentil. Ça veut dire qu'il est le seul de bonne constitution, le seul de bonne nature. Nous, nous sommes de nature mauvaise. Tous. Il n'y a qu'une seule créature qui... Il n'y a qu'un seul être, pas créature, qu'un seul être qui soit foncièrement bon, sans défaut en fait, ça veut dire, dans sa nature, c'est Dieu. Un seul est bon, c'est Dieu. Amen. Le psaume répète, car sa bonté dure à toujours. Là où le diable dit à Adam et Ève, Dieu, il est méchant, il veut vous maintenir en bas, et il vous interdit l'accès à la connaissance, parce qu'il ne supporterait pas quelque rivalité que ce soit, la parole de Dieu dit, sa bonté dure à toujours. Vous savez, parfois dans notre vie chrétienne, on peut douter de la bonté de Dieu. Et le diable peut pousser dans ce sens-là. Mais quelles que soient les situations dans lesquelles vous vous trouvez, je vous assure que l'Éternel est bon. Pour tous ceux qui se confient. Alléluia. Voilà le doute. Deuxième élément, la révolte, l'insubordination. Eh oui, c'est un révolté, le diable. Il fait partie des anges révoltés. Alors, je pense que c'est une spécialité française aussi depuis la Révolution, non? Il y a un proverbe qui dit, mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Je vous cite, c'est Proverbe 24-21. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Il y a pas mal de proverbes sur le roi. Et il y a aussi plusieurs psaumes royaux. Quand vous les lisez, il y a plusieurs lectures à avoir. Bien sûr, on peut y voir dans le roi Jésus-Christ. Mais la première lecture, c'est en fait un apprentissage du respect de l'autorité. Et quand le proverbe dit « Crains mon fils, crains l'Éternel et le roi », ça veut dire non quand trop de chrétiens disent « Moi, je n'obéis qu'au Seigneur ». Ce qui compte, c'est ce que le Seigneur me dit, c'est ce que le Saint-Esprit me dit. Mais alors attendez, moi c'est dangereux. Parce que parfois vous allez dire c'est le Seigneur, parfois vous allez dire c'est le Saint-Esprit, mais vous allez vous tromper des fois. Et si vous n'écoutez personne sauf Dieu, ben en fait, vous n'écouterez que vous-même. En pensant que c'est Dieu, en pensant que c'est le Saint-Esprit, mais c'est dangereux. L'Écriture nous donne une voie équilibrée. On doit craindre Dieu, mais craindre aussi le roi. Craindre aussi le roi. C'est-à-dire les autorités que Dieu a instituées. Et l'apôtre Paul l'explique clairement dans l'Épître aux Romains. Le diable est un révolté. Ah, nous sommes dans une époque où on parle beaucoup de tout ce qu'il y aurait derrière les gouvernements, on met en cause beaucoup de choses. Mais nous, nous sommes appelés en tant que chrétiens à aimer les autorités et à prier pour elles. C'est ce qui est, et à les respecter. Moi, je pense qu'en tant que chrétiens, on a un respect à avoir pour nos ministres, notre président, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit. Même si c'est un parti que vous n'aimez pas du tout, peu importe. Même si ces personnes, parfois, ne sont pas à la hauteur de leur tâche, nous avons à les respecter. Pas à cause de ce qu'ils sont en tant que personnes, mais à cause de leur fonction, de ce qu'ils représentent. Dieu les a établis. Quand Paul, au Romains 13, demande de nous soumettre aux autorités, c'était des empereurs romains terribles, peut-être même Titus, on n'en est pas sûr, mais enfin, c'était bien pire que ce qu'on vit aujourd'hui. Et dans une époque où il y avait ce que nous on appellerait des dictateurs ou des généraux sanguinaires, eh bien Paul dit, soumettez-vous aux autorités. Bon, parce que vous savez, on aura toujours de bonnes raisons pour être rebelle. Mais le rebelle, c'est le diable. Et quand on a essayé d'aller faire aller le Seigneur dans cette voie-là, en lui montrant une pièce de monnaie, mais en lui demandant plutôt, mais pour l'impôt, bien le Seigneur demande une pièce de monnaie, et il dit, ben, cette pièce de monnaie, vous voyez qui ? César. Ben, donnez-lui l'argent. Donnez aux politiques ce qu'ils doivent, ce que vous leur devez, et rendez à Dieu ce que vous lui devez. Même là, le Seigneur n'a pas dit, ah ouais, non, ça, ils font n'importe quoi avec votre argent. Hein. Ah, ils gaspillent tout. Hein. Ah non, non, il faut le donner à l'Église. Ouais, payez vos impôts. De bon cœur. Alléluia. Mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et quelque part, je me demande parfois si on ne rend pas aux hommes ce qu'on leur doit, je ne suis pas convaincu qu'on rende à Dieu ce qu'on lui doit. Les choses vont ensemble. La révolte, l'insubordination. Il y a un mot qui revient fortement dans les épîtres de Paul, c'est un mot qu'on entend de plus en plus rarement dans les assemblées aujourd'hui, c'est le mot soumission. Le mot soumission. C'est aux antipodes de l'esprit rebelle, des esprits méchants. Notre caractéristique, la colère, nous l'avons vu, il est en colère, il a été précipité du ciel et le diable est animé d'une grande colère. Il ne décolère pas depuis 2000 ans. Parce qu'il y a colère et colère. Vous savez, des fois, on peut vite se mettre en colère et dire, oh, je te demande pardon, je... Voilà. Et puis, il y a une colère qui dure. La colère du diable n'est pas passagère. elle est assumée, elle est endurcie, tout en étant aussi vive que jamais, qu'au premier jour. Quand il y a de la colère, il y a de la violence. Le diable est violent. C'est écrit que nous ne devons pas ressembler à Caïn qui tua son frère et qui était du malin, 1 Jean 3, 12. La colère favorise l'action du diable. Parce que c'est de son camp. Caïn a été en colère contre son frère parce que d'abord il était jeune. Nous devons veiller. Qu'est-ce que c'est que d'être vigilant par rapport au diable? Ça veut dire par exemple ici concrètement que si vous avez de la jalousie envers quelqu'un et vous ne faites pas attention à cette jalousie, que vous l'entretenez quelque part, en tout cas que vous ne la crucifiez pas, ben cette jalousie va vous conduire dans la voie de Caïn qui était du mal. Ça va vous fragiliser et à la fin, le diable aura la victoire. C'est ça être vigilant, c'est de dire, là actuellement je sens que je suis jaloux, je sens que je suis en colère. Et là ça, c'est comme si j'allais au combat sans armure. Au premier coup, je vais être blessé. La colère, la jalousie. À l'opposé. Non, il n'y a pas de souci, on est dans l'église. Ça, j'en parlerai après. Écoute bien, avec un cœur ouvert, et tu verras que la paix du Seigneur, elle est au milieu de nous. D'accord ? Alors, je continue à ce sujet-là, de la colère, de la violence. Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Et c'est écrit aussi dans une épître, que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est l'inverse. Le Fils, c'est l'inverse des ténèbres. Il est la lumière du monde. Alléluia. L'autre caractéristique, à partir de la signification des noms que nous avons vus dans Apocalypse 12, Satan, le diable. Satan, ça veut dire adversaire, ennemi. Alors, je le rappelle, tout simplement, ne nous trompons pas d'ennemi. Notre ennemi n'est pas dans l'Église, c'est pas un frère, c'est pas une sœur. Notre ennemi n'est même pas non plus dans le monde, c'est pas un païen ou une païenne. Même si des fois, votre travail, il peut y avoir des gens qui sont vos ennemis. Que les chrétiens aient des ennemis, mais ça c'est sûr. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que le chrétien soit l'ennemi de quelqu'un. Comprenez ? Nous ne voulons pas voir chez les autres un ennemi à abattre. Nous savons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous le lirons tout à l'heure. Mais vous savez quand parfois il y a des païens qui, subitement, bizarrement, sont très lunatiques envers nous et d'un coup nous font la misère. Je ne sais pas si on dit ça dans la région, faire la misère. Oui, nous font la misère. Ce n'est pas que humain. L'adversaire est là. C'est lui qui nous veut du mal. Ce n'est pas les gens qui l'utilisent avant tout. Et nous devons, quand nous perdons de vue cette réalité spirituelle, on peut faire l'erreur d'avoir de l'amertume, en vouloir à quelqu'un, parce qu'on voit pas plus loin que le bout de notre nez. On n'a une vue que horizontale. Mais quand on réalise, mais mon pauvre, en fait, il me fait la misère, mais il est perdu. Il est entre les mains de l'adversaire. C'est une marionnette. Seigneur, bénis-le. Sauve-le. Amen. C'est une autre perspective. Le deuxième, alors le diable, ça veut dire plusieurs choses. Alors, on va dire la première chose que cela veut dire, le trompeur, calomniateur. Il dit du mal, c'est pas dire du bien. J'ai connu un pasteur, il me disait que quand il allait manger chez des croyants, il mangeait et vers 14h, il s'en allait. Ouais, ça fait un peu drôle quand même, hein. Je le fais pas, rassurez-vous, si un jour vous m'invitez, je ne partirai pas à 14h pile. Mais parce que j'ai remarqué qu'après, en parlant mal des autres. Eh ben, chapeau. Le frère en a parlé, il a lu un passage sur le sujet. Et c'est vrai que la langue, elle fait l'œuvre du diable. Quand on critique, quand on calomnie, on aide l'adversaire. Que Dieu nous apprenne à avoir de bonnes paroles. Amen. Et parfois, c'est vrai qu'on ne peut pas en avoir de bonnes sur certaines personnes. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est difficile, cela. Eh bien, que Dieu nous mette une garde à notre bouche. Parce qu'à quoi ça sert de le dire? Vous savez, notre défaut, c'est qu'au lieu de voir la personne directement concernée, on en parle à Pierre, à Paul, à Jacques, et même d'autres prénoms, hein. Et ça fait un mal considérable. Diabolos, calomniateur, calomniateur. Ça veut dire aussi celui qui divise. Celui qui a semé l'ivraie dans le champ, c'est un ennemi, le dit l'Évangile. L'ivraie, la zizanie, la division. Alors ça fait réfléchir tout cela, vous ne trouvez pas sur ces quelques caractéristiques des ténèbres. C'est pas si théorique que ça en fait. Ça nous touche de près, c'est très concret. Que nous ne soyons pas animés par les ténèbres, mais plutôt par la lumière. Jésus nous a demandé dans la prière quotidienne de demander, délivre-nous du malin. Il y a quelques années, quand je me suis arrêté sur cette prière, délivre-nous du malin, j'ai réalisé qu'en fait, ce combat contre l'adversaire, il est quotidien et il est très important pour que Jésus dise qu'à chaque jour que l'on prie, nous devons nous en remettre à Dieu. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin. Ça veut quand même dire que c'est une chose sérieuse. J'en viens maintenant à quelques mauvaises conceptions qui engendrent des mauvaises pratiques dans ce domaine-là. Je parlerai succinctement de la fausse doctrine de la démonologie et de l'hérédité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. La fausse doctrine de la démonologie et de l'hérédité. Parfois, pour parler d'hérédité, on parle de liens ancestraux. Des liens ancestraux. Alors, aujourd'hui, il faut, dans les prédications, que l'on soigne. Parce qu'avec Internet, tout le monde voit, écoute, tout et n'importe quoi. Autrefois, dans les assemblées, la vie était parfois plus simple. Les croyants se contentaient de leur assemblée locale. Il pouvait y avoir une unité, une confiance. Et une doctrine et une unité de l'Église, parce que les uns et les autres vivaient ensemble. Aujourd'hui, premièrement, les chrétiens parfois changent d'Église. Alors, on se retrouve parfois avec des arrière-plans de culture d'Église différentes. Et puis, avec Internet, vous avez ce que vous voulez. Je dis bien, vous avez ce que vous voulez, parce que vous avez que les moteurs de recherche. Ben, il y a l'intelligence artificielle qui s'y mêle. Et si vous aimez bien quelque chose et si vous avez un biais, ce biais-là, l'intelligence artificielle le favorisera. Et ce que vous voudrez avoir, vous l'aurez. Et vous pourrez dire, mais non, moi j'ai entendu, j'ai lu sur Internet, et ça c'est la vérité. Mais non, parce que selon ce que vous recherchez, vous serez aiguillé vers ce que vous aimez. Et ça, c'est dangereux, parce que c'est la doctrine à la demande. Alors, je le dis haut et fort, un chrétien ne peut pas être possédé. Voilà. Parce que ça fait des ravages, cette fausse doctrine. Ça fait des ravages. Il ne faut pas confondre les œuvres de la chair et la possession des mauvais esprits. On a entendu des bêtises, excusez-moi. Il a le démon de l'ivrognerie. Mais ce n'est pas un démon, c'est lui qui boit. Vous savez, des fois on ne s'est pas rendu compte, mais cette fausse doctrine, ça a favorisé en fait une déresponsabilisation. C'est pas moi, c'est le démon. Alors ça c'est facile. Alors que bien sûr, et on a celui à chasser des esprits, à tirer la rigueur, là où il n'y en avait pas. Nous, des fois, on est fort dans le monde évangélique pour faire des choses bizarres. On invoque des choses qui ne sont pas, et après on dit, on a été délivré d'une chose qui n'existait pas. Et parfois, les incroyants viendraient au milieu de nous, dans certains de nos rassemblements, et ils diraient, mais ce Dieu-là, où est-ce qu'il est, leur cerveau, quelque part? Donc non, un chrétien ne peut pas être possédé, mais être chrétien, c'est avoir Jésus-Christ dans sa vie, dans son cœur. Jamais le Fils de Dieu ne peut être colocataire d'un mauvais esprit. C'est une impossibilité. Nous avons à crucifier la chair, et notre lutte contre l'adversaire est d'un autre ordre. Ensuite, on pourrait aussi parler d'être lié ou délié des liens ancestraux. On dit, ah, il y a des restes. Son grand-père ou le cousin de l'oncle, de la tante, du beau-frère, de son grand-père a touché aux cartes. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il lui reste quelque chose un petit peu au-dessus de sa tête. Bon, tout ça, vous ne le trouverez pas dans la parole de Dieu. Marie-Madeleine, les sept démons, elle a été délivrée, on n'en a plus jamais parlé. Alléluia. Il n'y avait pas de reste. Quand le Seigneur fait une œuvre, il l'a fait parfaitement. Quand on est converti, la Bible dit qu'on est passé du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. On change de camp. Le diable n'a plus une prise. Et il n'y a plus de reste. Il n'y a plus de liens ancestraux. Et là aussi, on confond avec ce que la Bible enseigne quand elle dit la hérité de la vaine manière de vivre de nos pères. C'est sûr qu'on a encore des trucs de notre famille, parce que chaque famille a son identité, a ses points forts, ses points faibles. Et c'est sûr que parfois on dit, ah, ça ne faut pas trop le faire, mais dans le couple, il faut dire, ah, tu ressembles bien à ta mère. Mais ça, en général, c'est quand on n'est pas très content ensemble, hein, quand on dit ça, tu ressembles bien à ta mère. Non. Mais c'est sûr qu'on est fait dans un moule. Et qu'on a une façon dont on a été éduqué, il y a des choses que tout au long de la vie chrétienne, le Seigneur nous ouvrira les yeux, dire, ah non, mais ça, en fait, je fais ça. Parce qu'on a toujours fait ça dans ma famille, mais ça déplaît à Dieu. Voilà. Donc ça, bien sûr, c'est la sanctification, mais ça n'a aucun rapport avec des esprits qui nous lieraient encore un peu, parce que des personnes de nos familles auraient trafiqué avec les choses des ténèbres. Aucun rapport. Et ce passage de Matthieu 18, on n'a pas le temps, versets 15 à 20, il est dit que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Vous le relirez, ça n'a aucun rapport avec ça. C'est quand il y a un problème dans une église et que deux ou trois s'accordent et décident d'avoir une mesure disciplinaire. Et beaucoup de spécialistes même disent que lié et délié, ça voulait dire exclure ou inclure dans l'église. C'est tout. Mais je n'ai pas le temps ce matin d'approfondir ce texte. Alors, si vous rencontrez des chrétiens évangéliques qui vous proposent une séance de déliement, vous pouvez leur dire non merci, le Seigneur m'a sauvé. Alléluia. Et c'est notre bon berger qui soignera nos plaies. Alors, d'autres pratiques moins exubérantes, mais il faut y réfléchir, s'adresser au diable ou au démon. Il y a des chrétiens qui, quand ils prient, s'adressent au diable. La prière, c'est s'adresser à Dieu. Le modèle, c'est on prie Dieu au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est le modèle biblique. Nous n'avons pas à invectiver le diable. J'ai lu un jour un ouvrage d'un spécialiste en exorcisme évangélique. Le titre était « Dégage Satan ». C'est irrespectueux. C'est injurieux. Ça ne se fait pas. Voilà. Jésus avait une certaine sobriété. À un moment donné, il est dit que quand Jésus voyait que la foule s'approcha, il chassa l'esprit. Parce qu'il voulait chasser l'esprit avant que les gens n'arrivent. Quand parfois il délivrait les gens, il voulait que les gens n'en parlent pas. Jésus a toujours été très sobre. J'ai été éduqué dans un mouvement qui, au temps du réveil, avait des fois dans des réunions, des manifestations et les faire chasser les mauvais esprits. Mais plusieurs d'entre eux le faisaient dans une pièce à côté, en toute discrétion, pour ne pas gêner la réunion. Aujourd'hui, on recherche le spectacle. On aimerait bien que dans les réunions, il se passe des choses exubérantes parfois. Mais la Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Et il ne vaut mieux pas trop donner audience aux choses des ténèbres. Nous voulons plutôt glorifier Dieu. Parce que trop en parler ce matin, je l'ai sur le cœur d'échanger avec vous. Donc j'échange pour avoir une foi saine. Et je le fais une fois. Mais trop parler de cela n'est pas bon. Ça glorifie, ça donne trop de place à l'adversaire. La fausse doctrine des esprits territoriaux, vous avez dû aussi entendre parler de cela. Certains ont compris quelque chose de nouveau que l'Église n'avait pas vu depuis 2000 ans, c'est que chaque ville, chaque région serait détenue par des mauvais esprits et en conséquence, il faut marcher dans la ville. Alors on marche dans la ville et on prie et on chasse et on fait toutes sortes de choses. Mais Jésus n'a jamais fait ça. Jamais dans la Bible il est question de ces pratiques-là. Je suis désolé, mais revenons à la parole. Je ne crois pas que ça fasse quoi que ce soit au monde des ténèbres que de faire une promenade en ville en gesticulant et en criant. Je connais un passage dans lequel ceux qui gesticulaient et criaient étaient les adorateurs de Baal. Vous vous rappelez ? Et ils criaient, ils sautaient, ils faisaient des incisions. Et Élie, avec ironie, « Plus fort ! Plus fort ! Il n'entend pas !» Ce ne sont pas les décibels qu'il faut fuir le diable. C'est une vie fidèle, approuvée de Dieu. Ce ne sont pas des méthodes. Ce serait une réalité. Amen. Et c'est plus difficile. Alors justement, on va lire Jude 8:9, s'il vous plaît. Jude 8:9, rapidement. Jude 8:9, pour nous en rappeler. Où il est dit, malgré cela, alors, tout à l'heure, certains diront, mais dans Daniel, il y avait l'ange, etc. Quand je parlais des esprits territoriaux, je dénonçais la doctrine systémique qui en a été faite. Juge, verset 8, il est dit, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Alors, méprisent l'autorité, injurient les gloires. Les gloires, on pourrait plutôt penser à Dieu et aux anges. Les gloires. Mais regardez ce qui suit. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur. Donc, excusez-moi, ici, le diable fait partie des gloires dans ce passage. Et il nous est dit que un grand ange puissant n'a même pas osé en son nom lui dire quelque chose, mais il a dit que le Seigneur te répond. Ça fait réfléchir. Vous savez, je crois que nous, parfois, on manque un peu de crainte de Dieu. Vous savez que le mot gloire en hébreu, ça veut dire poids. C'est ce qui est lourd, c'est ce qui pèse. Nous, on est léger, on est superficiel. Mais les gloires pèsent. Et quelque part, le diable pèse aussi. Et il faut avoir un certain respect, malgré que ce soit notre ennemi. On lit Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20, s'il vous plaît, pour le vrai combat spirituel. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20. Il est dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Il y a la panoplie qui est décrite. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée d'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Amen. Très rapidement, ce passage sur le vrai combat spirituel, ben, ce qui est déterminant, c'est la transition entre les versets 12 et 13. Vous voyez bien, vous pouvez voir avec moi, il est dit, verset 12, nous n'avons pas lutté contre la chair, contre le sang, mais contre les princes de ce monde de ténèbres. Alors, la Bible dit qu'on doit lutter contre le monde invisible. Alors, on se sent un petit peu là, décontenancé, on se dit, mais comment lutter contre quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne saisit pas, qu'on ne connaît pas? Eh bien, le verset 13 nous ramène à une réalité toute humaine, quelque part. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Et c'est quoi? Ben, c'est décrit vérité, justice, zèle, foi, parole de Dieu. Ça, c'est le vrai combat spirituel. C'est un faux combat spirituel de toutes ces méthodes que j'ai dénoncées tout à l'heure, où on voudrait nous faire croire qu'il y a quelque chose de plus à faire que ce que la Bible nous dit, quelque chose de nouveau, quelque chose de plus excitant, en fait. De plus excitant. Mais en fait, quand Paul parle du combat spirituel, il dit, ben voilà comment il faut lutter. Ben, il faut que dans votre vie, vous ayez à la ceinture la vérité. Que vous aimiez la vérité, que vous ne mentiez pas, que vous disiez la vérité, ben déjà rien que ça. La justice, que vous ayez une vie qui plaise à Dieu, une vie juste. On est justifié, mais pour pratiquer la justice. Amen. Bon, être vrai, être juste, avoir du zèle, être consacré. Le zèle pour servir le Seigneur. Alléluia. Je vous invite à aller à une réunion de prière en semaine. Vraiment, c'est important. Les premiers chrétiens se réunissaient régulièrement. Vous avez ce zèle pour prier ensemble. La foi, bouclier de la foi. Alors, c'est quoi le bouclier de la foi? C'est pas, des fois, on pense, ah, c'est avoir une foi particulière. Le bouclier de la foi, c'est tous les jours de notre vie, croire que Jésus-Christ nous justifie. Ben, rien que ça, c'est énorme. Que de fois, nous chrétiens, on se fait du mal, on se condamne, on se culpabilise, parce qu'on ne lève pas assez ce bouclier de la foi. Oui, j'ai chuté. Oui, il y a ça dans mon cœur. Mais Jésus, je crois qu'il est mon sauveur. Je crois qu'il me justifie entièrement. Je crois que je suis sauvé. Alléluia. Eh bien là, les traits enflammés, ils ne me touchent pas. C'est ça le bouclier de la foi. C'est pas avoir une plus grande foi que les autres. C'est pas avoir une foi spéciale contre le diable. C'est avoir la foi en Jésus-Christ. La foi en Dieu qui est bon. Amen. Pour revenir au début du message. Dieu qui est bon, même si on ne comprend pas toujours ce qu'il veut. Avec nos vies. Puis la parole de Dieu. Alors ça, c'est une très grande faiblesse de nos assemblées actuellement. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui lisent toute la Bible. Et ça, c'est terrible. La Bible doit être lue de A à Z. Disciplinez-vous. C'est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Lisez-la tous les jours. Bon, maintenant, si vous ne la lisez pas un jour, ne vous culpabilisez pas. Restez dans la foi. Mais il faut se nourrir de sa parole. Lire la Bible une fois par an, c'est 20 minutes par jour. Je suis sûr que vous avez 20 minutes pour la télé par jour, 20 minutes pour le portable par jour. 20. On va arrêter là. la parole de Dieu, elle ne s'assimile pas par en picorant. C'est pas l'apéritif. Il faut lire un livre du début à la fin. Et pas au hasard, Seigneur, parle-moi. Et le lendemain, au hasard. On peut avoir une vie chrétienne hasardeuse. On peut avoir une vie chrétienne sérieuse. La vie de l'esprit n'empêche pas le sérieux, au contraire. Alors, la parole de Dieu. Et alors, vous voyez, quand on voit l'armure, ben, c'est pas des trucs et des machins pour combattre. C'est les armes que les chrétiens ont toujours utilisées depuis 2000 ans. Une vie dans la vérité, une vie dans la justice, être zélé pour le Seigneur, se consacrer à lui, lire sa parole, être enseigné par sa parole, structuré par sa parole. En conclusion, je voudrais vous parler de la victoire de Jésus-Christ sur l'adversaire. Amen. Alors on le lit dans Colossiens chapitre 2, verset 15. Colossiens 2, 15. Alors normalement, voilà. Quelqu'un qui est attaqué à l'ordinateur, il y a tous les textes. Colossiens 2, 15. Alors je vous le lis. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Nous croyons en la pleine victoire de Jésus sur l'adversaire. C'est au nom de Jésus que l'adversaire s'enfuit. C'est l'Esprit de l'Éternel qui le fait. Alléluia. Et ça, c'est très important de rester positionné dans cette victoire et de ne pas avoir peur, mais de rester dans la paix de Jésus. Alléluia. Si nous sommes à lui, alors nous sommes protégés. Il est dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 18, on peut le lire si vous voulez bien, 1 Jean 5, 18, ceci. Nous savons que quiconque est né, alors c'est un peu plus loin, hein, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. Celui qui est né de Dieu, né de nouveau, n'a pas baptisé d'eau, parce que si on est chrétien, baptisé d'eau, même par immersion, n'est pas né de nouveau, en fait, on n'est pas chrétien. Mais celui qui est né de Dieu et se garde lui-même, hein, on ne va pas faire n'importe quoi, le malin ne le touche pas. Alléluia. Ça, c'est très important, hein, parce que parfois vous pourriez avoir des combats, des difficultés, mais le malin ne nous touche pas. On termine avec 1 Pierre chapitre 5, versets 5 à 11, sur la vigilance. 1 Pierre chapitre 5, verset 5, il est dit: de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous celui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà. Un beau passage, l'humiliation va avec la victoire. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Et c'est après écrit: résister au diable. Vous savez, on peut essayer de résister au diable. Mais si d'abord on n'est pas humilié sous la main de Dieu, ça ne marchera pas. Et Caïn, il n'a pas réussi. Il faut qu'on fasse attention avec cette tendance à parler toujours de victoire, de victoire, de victoire. On est vainqueur, on est vainqueur, on est vainqueur. On parle toujours de victoire. On parle rarement des conditions pour avoir la victoire. Et c'est pas parce qu'on proclame « je suis vainqueur » qu'on va gagner. J'ai souvent entendu parler les joueurs de foot dire « on va gagner » et puis au final perdre le match quand même. Donc, ça, c'est la méthode Coué, ça. C'est le positivisme. C'est-à-dire, allez, on est vainqueur en Jésus, on est vainqueur en Jésus. Non, non, à vous le dire, le répéter 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, si on n'est pas soumis, on est vaincu. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. C'est important de confesser ses péchés. Et ici, s'humilier, c'est quoi aussi? C'est, jeunes gens, restez à votre place. Dieu résiste aux orgueilleux. Il vous élèvera au temps convenable. S'humilier sous la puissante main de Dieu, c'est par exemple un frère qui voudrait devenir chef ou chef de chef ou je sais quoi d'autre. S'humilier sous la main de Dieu et de dire « Seigneur, moi je m'humilie sous ta main, je ne veux plus être carriériste, avoir cette ambition. Si tu veux me donner quelque chose, c'est toi qui élèves au temps convenable. » Nous venons de le lire. C'est Dieu qui élève au temps convenable, ce n'est pas à nous à nous élever. C'est ça aussi, s'humilier sous la puissante main de Dieu. C'est se réjouir de notre boulot sans être frustré de ne pas avoir la promotion que la chair réclame. Amen. Alors, ça, c'est bien vivre l'humilité devant Dieu. Et puis, le diable rôde comme un ange rugissant, cherchant qui il dévorera. On a tous vu des documentaires sur l'Afrique. J'aime bien ce continent. Et ce qui est étonnant, c'est comment le lion se tapit dans les hautes herbes. On dirait un chat. Mais ce n'est pas un chat, je vous assure. Et on ne le voit pas. Et quand il estime la distance avec la gazelle ou le zèbre, je ne sais pas, suffisant parce qu'il a la rapidité, mais il n'a pas l'endurance. Quand il pense que là, c'est bon, ouf, il bondit. Et j'ai toujours vu dans les documentaires qu'ils choisissent les animaux isolés, ou malades, ou faibles. Voilà. Pour être vigilant contre l'adversaire, restez dans l'église. Restez dans le troupeau. Votre église n'est pas parfaite? Ben écoutez, quand je connaîtrai une, je vous donnerai l'adresse. On s'en ira tous là-bas. Oui, mais elle ne va plus devenir parfaite non plus, elle ne sera plus dans ce cas-là. Le diable veut nous pousser à l'isolement. Dans un premier temps, on est content si on est débarrassé des frères et sœurs. Dans un deuxième temps, on s'affaiblit. Puis petit à petit, on se sent même plus bon de certaines choses. Et là, il peut bondir. Il cherche quelqu'un à dévorer dans cette assemblée, dans toutes les assemblées. Que Dieu nous garde, que nous nous gardions nous-mêmes. Et nous remercions notre Sauveur, si puissant, de nous avoir délivrés de ses mains. Et nous ne voulons pas avoir un comportement charnel qui favoriserait son jeu, dans toutes les choses que j'ai énumérées tout à l'heure. Et nous voudrions plutôt rester ensemble dans le troupeau pour lui faire face avec fermeté. À Dieu soit la gloire. Amen.